En théorie, la façon de vivre de tout homme reflète ses valeurs et ses priorités, ce qu'il croit concernant le passé, le présent et l'avenir. Le problème est que peu de gens sont cohérents avec eux-mêmes. Ils disent croire une chose, mais en font une autre. Pour cette raison, beaucoup de passages du Nouveau Testament exhortent les croyants à vivre selon la foi qu'ils professent. Je continue à lire dans le troisième chapitre de la seconde épître de Pierre. « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les éléments embrasés fondront. » Versets 11 et 12. De profession, Pierre n'était pas astrophysicien, mais un simple pêcheur de poissons sur la mer de Galilée. Mais cela ne l'empêche pas d'affirmer sans sourciller que tout ce qui existe va tout simplement disparaître. Un jour, cet univers, dont les savants essayent de percer les secrets, sera totalement anéanti. Il fondra sous le poids de la colère de Dieu, dans un holocauste final d'une intensité qui défie l'imagination. Pour les ennemis du Seigneur, ce jugement final sera un cauchemar auquel ils n'échapperont pas. Par contre, pour les enfants de Dieu, il signifiera la fin de l'histoire humaine et l'accomplissement de l'espérance chrétienne, car Dieu créera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il n'y aura plus ni péché, ni souffrance, ni mort. Dans la perspective de l'éternité qui comprend le jugement à venir et le futur glorieux que Dieu réserve à ses bien-aimés, Pierre exhorte ses lecteurs en disant « Quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu ». La façon dont ce monde finira a des implications pratiques qui devraient se manifester à la fois dans l'attitude intérieure et dans le comportement. Les croyants sont appelés à rechercher les valeurs éternelles et à mener une vie sainte conforme à leur espérance, à ce qu'ils disent croire. Ils doivent se séparer de la mondanité et se consacrer à Dieu. Pierre utilise le temps du présent afin d'exprimer l'idée que la sainteté et la consécration doivent être constamment présentes dans la vie quotidienne des croyants. Manifestement, la certitude d'une récompense à venir et la nécessité de rendre des comptes au Seigneur ont fortement influencé le grand apôtre Paul sur la façon dont il menait sa vie. Le fait de savoir qu'un jour il devrait se tenir devant Jésus-Christ l'a puissamment motivé à marcher d'une manière droite et digne de l'appel que Jésus-Christ lui avait adressé. Il écrit « Que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. » Par contraste, les moqueurs qui rejetaient l'enseignement du retour du Seigneur, d'un jugement des vivants et des morts, et d'une nouvelle création, avaient une conduite impie. Les croyants doivent mener une vie sainte en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Le jour de Dieu désigne non pas le royaume de 1000 ans, mais l'état éternel que nous connaîtrons une fois que la nouvelle terre et les nouveaux cieux seront créés. Le verbe « en attendant » exprime une attitude expectative et l'ajout du verbe « en hâtant » renforce cette idée. Plutôt que de craindre l'avenir à cause du jugement, les croyants doivent l'anticiper avec joie, car ils n'ont rien à craindre de la part du Père qui les aime. Ainsi donc, à l'instar de Paul, ils peuvent dire « Maranatha, viens Seigneur » en hâtant sa venue. Ce dernier mot est courant en grec et signifie littéralement « présence ». Dans le Nouveau Testament, il décrit l'arrivée en personne de Jésus. Je continue le texte de Pierre. « Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Verset 13. « L'ancien système cosmique cédera la place à un nouvel univers. » Le mot traduit par « nouveau » et « nouvelle » exprime une nouveauté au niveau qualité. Ce ciel et cette terre à venir seront très différents de ce que nous connaissons, surtout parce que la justice y habitera. Ce dernier verbe signifie s'établir chez soi, élire résidence de manière permanente. Dans le nouvel ordre de Dieu, la justice règnera suprême. Mais au juste, qu'est-ce que la justice ? Eh bien, dans les Écritures, ce mot a plusieurs significations. Premièrement, la justice de Dieu est souvent mise en parallèle avec les actions dans lesquelles le Seigneur s'engage pour sauver ou racheter son peuple. En d'autres mots, ce sont ses actes de compassion envers ceux qui lui appartiennent. Dans un passage du livre du prophète Michée, Dieu dresse une liste de ses actes bienveillants envers Israël, puis conclut en disant « Souviens-toi du chemin que tu as parcouru et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. » Dans l'éternité, Dieu exprimera pleinement son amour pour les racheter en satisfaisant constamment et instantanément tous leurs besoins. Deuxièmement, la justice d'une personne consiste à être déclarée juste. C'est une sentence d'ordre légal qui ne dépend pas de la conduite, mais qui est un don de la grâce de Dieu. Les justes ne sont pas ceux qui font tous leurs efforts pour être absolument justes, d'eux-mêmes et en eux-mêmes. Ceux-là sont appelés des propres justes dans les Écritures. Les vrais justes, selon Dieu, sont ceux qui désirent ardemment que le Seigneur les déclare justes par rapport à lui lorsqu'il prononcera son jugement sur eux. Leur véritable ambition est un jour de s'entendre dire « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Troisièmement, la justice est une réponse humaine à la sentence de juste posée par Dieu. Il demande en effet à ses justes de se conduire d'une certaine façon. Parce que ce sont ses enfants, ils doivent lui obéir et mener une vie consacrée, certes. Mais une vie juste consiste à montrer de la compassion envers les opprimés, les faibles, les rejetés, souvent symbolisés dans les Écritures par les veuves et les orphelins. Quand Job énonce ses actes de justice, il mentionne ce qu'il a fait pour les démunis. Et le prophète Ésaïe écrit de Jésus « Il ne brisera point le roseau cassé ». Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. La justice de Jésus consistait en sa compassion envers les faibles et les pécheurs. Le passage de Michée que j'ai déjà lu se termine par « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice ». Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Comme dans le monde à venir, il n'y aura plus de miséreux à qui faire miséricorde, la justice consistera en une loyauté absolue des élus à leur maître et par la bonté qui régira toutes les relations entre les rachetés. Quatrièmement, dans les Écritures, la justice est liée à la paix. En ce monde, il n'y a pas de justice et donc il n'y aura jamais de paix. C'est peut-être une déclaration à l'emporte-pièce, mais elle est vraie. Ésaïe écrit « Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice, ce sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Nous n'expérimentons jamais ou que très rarement la paix du Seigneur, cette tranquillité d'esprit totale et profonde sans le moindre petit tracas. Je continue le texte de Pierre. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve purs et irréprochables à ses yeux dans la paix qu'il donne. Verset 14. Le « c'est pourquoi » introduit l'idée comme quoi la conduite de quelqu'un est intimement liée à son attente du retour du Seigneur. C'est ici la troisième fois en trois versets que Pierre utilise le mot « attente ». L'attente sainte et active du croyant est sa juste réponse à la patience de Dieu. Étant donné que la terre et tout ce qu'elle renferme se dirigent irrémédiablement vers un anéantissement complet, les problèmes d'actualité comme le réchauffement planétaire ou la pollution ne sont primordiales que pour les écologistes dont la perspective se limite à cette pauvre existence sur Terre. Mais pour les croyants, ce qui compte avant tout est de mener une vie qui soit agréable à Dieu. L'expression « faites tous vos efforts » a déjà été employée par Pierre au premier chapitre de cet épître quand il a dit « faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi » Redoublez d'efforts pour vous assurer de votre vocation et de votre élection. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux. Le mot « pur » a déjà été employé par Pierre au sujet de Jésus dans sa première épître quand il a dit « Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Le mot pour « irréprochable » veut dire « sans défaut moral ou apparent », comme cela devait obligatoirement être le cas pour les animaux qui étaient offerts en sacrifice dans l'Ancien Testament. Les adjectifs « pur » et « irréprochable » font allusion d'une part au caractère du croyant et d'autre part à sa réputation de juste et vertueux aux yeux des autres. L'exhortation que fait Pierre à ses lecteurs d'être pur et irréprochable contraste avec les pratiques licencieuses des enseignants de mensonges que l'apôtre a décrites précédemment en disant d'eux qu'ils étaient tarés et souillés. Aujourd'hui, certains de ceux qui se disent chrétiens ne sont ni purs ni irréprochables, tandis que d'autres sont irréprochables en public, mais leur vie privée est loin d'être sans tache. Tels des pharisiens des temps modernes, ils font tout pour bien paraître en portant un masque de carnaval. Les croyants véritables doivent manifester le plus haut degré d'intégrité et de sainteté personnelle et se comporter d'une manière moralement pure en fuyant toute forme de corruption à l'image de Jésus-Christ, l'agneau pur et sans défaut qui a versé son sang pour nous. Ceux qui marchent en nouveauté de vie peuvent connaître la vraie paix, celle qui bannit les soucis aussi bien terrestres qu'existentiels. Ils peuvent dormir du sommeil du juste parce qu'ils jouissent de la tranquillité d'esprit de ceux qui savent que leurs péchés sont pardonnés. Les situations personnelles peuvent être terribles et les événements en ce bas monde dramatiques. Mais les croyants qui vivent dans l'espérance de la vie éternelle ont la possibilité de connaître une paix profonde et durable parce qu'elle repose sur le Seigneur et ses promesses. J'ai encore bien des progrès à faire. Mais à quoi ressemblera notre vie dans l'au-delà? Voici la description la plus détaillée que nous avons du caractère merveilleux de ce nouvel univers. Nous la devons à l'apôtre Jean qui écrit « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Fin de citation. Je continue l'épître de Pierre. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Verset 15. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que le jugement n'est pas tombé, il y a encore du temps pour proclamer la bonne nouvelle. Comme Pierre l'a déjà souligné, Dieu attend patiemment que soient sauvés ceux qui doivent l'être. Cela veut aussi dire que Dieu n'est pas en retard pour exécuter ses plans et revenir sur terre en la personne du Christ pour instaurer un royaume de justice. Les apôtres Pierre et Paul se connaissaient bien. En fait, ils avaient tous deux pris part au concile de Jérusalem. Bien qu'à une occasion, Paul ait sévèrement réprimandé Pierre pour sa conduite envers les païens, ils s'aimaient et se respectaient mutuellement. Les lecteurs de Pierre avaient lu certaines épîtres de Paul parce qu'ils habitaient dans les régions d'Asie mineure où il avait œuvré et où se trouvaient des églises auxquelles il avait écrit. Je continue. Paul parle de la patience du Seigneur dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. Verset 16. En plaçant les épîtres de Paul sur un pied d'égalité avec l'Ancien Testament, Pierre affirme que Paul était divinement inspiré. Le mot pour « difficile à comprendre » ne se trouve qu'ici dans le Nouveau Testament. Il servait à désigner des oracles ambigus et obscurs. Pierre ne veut pas dire que les enseignements de Paul sont impossibles à comprendre, mais que certains sont plus complexes que d'autres, surtout quand il s'agit de révélations prophétiques. Ces passages difficiles donnent l'occasion à certaines personnes mal informées et vacillantes dans la foi de déformer leur sens. Le mot pour déformer n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Il signifie tourmenter, torturer, tordre avec violence. Ces personnes malveillantes altéraient non seulement les écrits de Paul, mais aussi les textes de l'Ancien Testament. Ceux qui font une interprétation erronée des Écritures ont des a priori religieux qui dictent d'avance leurs enseignements. Du coup, ils attirent sur eux les foudres de la colère de Dieu et une ruine éternelle. Je continue. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Verset 17. Il termine donc cette lettre par un style chaleureux et affable, mais aussi par un avertissement qu'il va faire suivre d'une parole d'encouragement. Le mot grec traduit par « vous voilà prévenu » a donné « pronostic » en français. Avant de pouvoir traiter une maladie ou faire face à un mal quelconque, il est indispensable de savoir à quoi on est confronté, d'où la nécessité de poser un pronostic juste. Cette information est le point de départ d'une stratégie défensive efficace pour celui qui veut bien l'écouter. Il existe en effet des tas de gens à qui on a beau dire que leur style de vie va les conduire à une mort précoce, ça ne les fait pas changer d'un poil. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu. Le mot traduit par « sans respect » veut littéralement dire « sans loi, sans coutume, corrompu ». Le verbe « entraîner » décrit un mouvement de groupe. Les enseignants de mensonges ne cherchent pas à entraîner loin de Jésus une ou deux personnes de temps en temps, mais toute l'Église. Les croyants qui prêteraient une oreille bien disposée au discours des imposteurs religieux risquent de se laisser convaincre et de perdre la position solide qu'ils occupent, celle qui correspond à la saine doctrine. Le mot pour position solide a la même racine que celui pour mal affermi, mais veut dire le contraire. Je finis la seconde épître de Pierre. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Verset 18. Même si le croyant doit attendre patiemment la venue de Jésus-Christ, sa vie quotidienne n'est pas figée et stérile. Il doit progresser dans la grâce de Dieu. Cette expérience est ancrée dans la connaissance de Jésus-Christ, le concept clé de l'Épître. La croissance du croyant se fait au fur et à mesure qu'il s'éloigne du péché et qu'il obéit aux exhortations des Écritures. Pierre a déjà décrit ce processus dans sa première épître quand il a dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut ». En étudiant fidèlement les Écritures, le croyant se préparera à faire face aux assauts des imposteurs religieux de tout poil. L'apôtre Pierre, qui était autrefois plus à l'aise dans un bateau de pêche qu'avec les parchemins des textes sacrés, termine cette formidable épître en affirmant l'unité du Père et du Fils dans une splendide doxologie où il rend gloire au Sauveur et Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles.